Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Amix Réflexion, show numéro 215. Ne vous inquiétez pas, ça s'agite et ça bouge en coulisses, mais normalement on devrait y arriver, on devrait être sur les rails dans quelques secondes. Tout va bien pour nous, on rentre pas bronzé, mais on était au Maroc et vu qu'on a porté le casque pendant 2 jours et qu'on était les 2 autres jours dans un avion ou dans un aéroport, on n'a pas trop pris de couleur. Mais en tout cas, c'était fun, c'était bien cool. On vous avait annoncé ça lors du live avec Serge Guidetti la semaine dernière. Et à la suite de ça, on est parti au Maroc pour faire une rando avec Moto Maroc Évasion avec Seb qui a monté ça au mois de septembre et qui nous a accueillis là avec un groupe de 10 personnes et c'était vraiment cool, la vidéo va pas tarder à sortir, donc on était là pour ça, on était là pour vous montrer comment ça se passe l'enduro au Maroc. On était du côté d'Agadir, pour ceux qui veulent savoir, on a eu pas mal la question, un message privé, voilà, côté d'Agadir au sud du Maroc et vraiment lieu paradisiaque, c'était vraiment énorme, je pense que la vidéo va vous plaire, j'ai vu un premier jet de notre réalisateur qu'on a juste en face de nous et c'était vraiment, ça va être vraiment quelque chose de grandiose, mais bon, j'ai envie de dire c'est normal, c'était plus ou moins du métier quand même.
Oui, en parlant de vidéo, ouais, c'est cool. Bonsoir à tous, exactement, on a fait un petit week-end au Maroc, pas mal de péripéties. Notre invité, qui lui aussi voyage beaucoup, a dû avoir peut-être la mésaventure de perdre les affaires. Ils ont perdu nos affaires, on était là-bas pour rouler 2 jours, et on a passé une journée déjà sans nos affaires dans le tout, donc pour rouler, c'était pas évident. On explique tout dans la vidéo, on montre comment on s'en est sorti, comment on a fait, et au Maroc, de toute façon, on se rend compte qu'il y a une solution pour tout. Nous, souvent, en Europe, on se prend la tête pour pas grand-chose. Là-bas, il y a une solution pour tout. On trouve facilement des solutions. Donc là, on a trouvé une. Et voilà, on a passé un excellent week-end, comme tu l'affiches là actuellement, Nico, avec Olivier Nittard, avec Seb, avec toutes les personnes qui ont participé avec nous. Donc, on s'est vraiment régalé. En tout cas, ce soir...
Tout le monde est revenu entier.
Oui, exactement. On avait pris l'assurance, on avait pris ce qu'il fallait avec Assure Transport. On était parés à toute éventualité, mais sauf à la perte des bagages. Mais bon, en tout cas, on va parler pas mal de moto encore une fois ce soir avec notre invité. Je ne vais pas teaser, mais il a un projet exceptionnel. Donc, on va voir ça. On va essayer de voir comment ça s'est ficelé. Et comme d'habitude, on commence notre interview par une suite de questions. En tout cas, bonsoir Axel. Comment ça va?
Hello. Ça va.
Très bien. Allez, on commence vite. Est-ce que tu peux nous donner ton nom, prénom et ton âge, s'il te plaît?
Alors, Axel, pas Alex, parce que souvent les gens se trompent.
Nico s'est trompé.
Il y a l'erreur en off tout à l'heure. J'ai vite rebondi.
Allez, Tru, et 33 ans.
Tout jeune.
Lieu de naissance.
Lille.
Ta profession actuelle.
Conférencier international keynote speaker.
Ouh là 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 là, mais monsieur est bilingue.
Ça sur la carte de visite, ça fait bien.
La situation familiale.
Deux enfants mariés, pas mariés, mais deux enfants.
Tout comme.
Et ouais.
Tes revenus actuels.
C'est trop vague.
Trop aléatoire en fait.
Ouais, moi, le problème, c'est que c'est trop variable. Tu sais, les conférences, tu peux en faire plein sur un mois, puis plus rien. Puis après, si tu dépends du Covid, tu dépends des grèves.
Actuellement, tes revenus, c'est 100% des conférences?
Ah oui, je fais que ça.
D'accord.
Que ça. Mais du coup, je voyage beaucoup. Mais du coup, tu es... Tu es toujours en première ligne parce que, par exemple, quand il y avait le Covid, évidemment, l'événementiel, il n'y en avait pas. Après, quand tu as les grèves, les gens annulent les séminaires parce qu'ils ont peur que les collaborateurs ne peuvent pas venir sur place. Donc, tu es toujours impacté dès qu'il y a le moindre souci. Donc, c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, mais je veux dire, tu n'as pas de visibilité.
Dernière petite question de cette série. Combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour?
Ça dépend. Pour travailler ou pour scroller?
Tout. Ah non, c'est tout. C'est tout, cumule, c'est tout. Après, on rentrera dans le détail si tu le veux bien.
En vrai, on va dire, maintenant, on fait beaucoup de visio. Donc, ça peut être 2-3 heures. Tu vois, les réunions. Tu vois, parce que maintenant, comme tout le monde. Quand j'ai des préparations de conférences et le mec, il est, je sais pas, aux Émirats ou en Allemagne, tu es obligé de tout faire en visio. Tu ne vois pas les gens en réel maintenant. Donc, Donc beaucoup de visio et d'ordi.
Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé d'ailleurs pour toi, ce début des conférences, le fait de se mettre le pied à l'étrier, parce qu'on sait que tu étais pilote pro, tu es
Comment
passé de...
je suis venu à ça?
Ouais, comment t'es venu à ça? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Comment ça s'est passé on va dire, ouais, prendre ce virage pour aller vers le métier de conférencier?
En gros, avant je nageais, donc j'ai fait de la natation, enfin j'ai fait du BMX, du motocross, j'ai eu mon accident et après je me suis lancé en natation où j'ai pas mal performé, j'ai plusieurs médailles aux Jeux européens, médaille d'or, puis après 12 fois champion de France, 3 records de France sur 50 mètres papillon, 50 mètres crawl et 100 mètres crawl. Et en fait, mes partenaires de l'époque, mon plus gros partenaire qui était la BPCE, m'ont demandé de pitcher un petit peu, enfin ils m'ont invité un peu sur un colloque en disant ce serait bien que tu viennes partager un petit peu ton expérience de vie, ton parcours, ton histoire. Et j'y suis allé, ça a pas mal fonctionné. Et de fil en aiguille, après sur les gros colloques, même s'il y avait d'autres athlètes dans le team, par exemple, je sais pas, il y avait Batum, je sais pas si vous connaissez en NBA, qui joue en NBA. Après, il y avait Martin Fourcade qui était dans le team, Fabien Gillot en natation. Et à chaque fois, on me faisait intervenir moi devant les collaborateurs, je sais pas, dans le Vélodrome de Marseille, ce genre de truc. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites toujours intervenir moi alors que vous avez des stars internationales qui sont là? Et ils m'ont dit, mais non, t'as un truc, la façon dont t'amènes les collaborateurs, il se passe des choses et du coup, on aimerait bien que tu puisses continuer à le faire, mais chez nous en interne, sur d'autres agents, enfin plusieurs, pas que la BPC, pas que Caisse d'Épargne, mais toute la BPCE. Et du coup, j'en ai fait une, deux, trois, quatre. Et après, j'ai construit quelque chose de sérieux. Et puis après, voilà, l'international.
Tu fais évoluer l'histoire à chaque fois ou c'est tu racontes tout le temps la même chose? Je veux dire, par là, est-ce que tu fais évoluer en fonction
En fait,
de l'entreprise qui t'appelle à toi?
selon la demande, tu peux avoir. Il y a plusieurs thèmes. Tu vois, moi, j'ai résilience, motivation, dépassement de soi, performance et handicap. Et en fait, selon ce que les gens veulent insuffler sur le séminaire, bah, je viens appuyer un peu plus sur le sujet. Après, je ne vais pas changer l'histoire à chaque fois parce que c'est la base, c'est le socle. Mais 60% reste la même chose et les 40% restants peuvent varier selon la demande. Esprit d'équipe aussi, management. Voilà, ça peut être des boîtes qui peuvent être de petites PME de, je sais pas, 200 personnes jusqu'à l'ultra luxe avec 3000 personnes. C'est très, 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 très variable. C'est vrai que c'est un métier qu'on connaît pas du tout et que je ne connaissais pas du tout et que les gens connaissent très peu. Mais il y a un gros marché et beaucoup de conférenciers. En France, il y a une grosse demande. Donc
Et
voilà.
ça tu l'as préparé comme un sportif prépare un événement au début ou pas du tout? Tu l'as fait un peu, on va dire.
Bah, moi, oui, en gros, tu. Alors, en compète, tu es à plusieurs. Là, je suis seul sur la scène, du coup, c'est plus facile, mais tu dois toujours délivrer le mieux possible bah, une conférence pour que ce soit le plus impactant. Donc, au
Ouais,
final,
c'est
tu
ça ce
dois
que je veux dire. En fait, c'est toute la
faire.
partie préparation, parce que la conférence, ça s'écrit, ça se répète, un peu comme
Ah
un
oui, non, mais
entraînement
c'est
avant une course, tu vois. C'est un peu
ça, c'est
pareil.
un gros. Oui, c'est un gros boulot parce que j'ai dû tout écrire, j'ai dû tout répéter, tout apprendre.
Et seul, tu l'as fait seul ou tu t'es fait aider?
Non, je l'ai fait seul.
D'accord. C'est bien.
Et alors, le deuxième gap, c'était après le faire la même chose, mais en anglais.
Et en
Ça, c'est
plus,
encore autre chose.
ouais, parce
Bon, toi,
que
Nico.
transmettre des émotions dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est encore plus compliqué.
Bon, Nico, lui, parle en anglais couramment, mais tu parles bien anglais, toi, je crois, non? Il y a
Ouais,
tes
ouais,
yeux.
ouais. Ouais,
Mais.
mais pour le coup, c'est quand même pas
Moi,
pareil. Parce qu'il y a la culture et le discours, ils le reçoivent pas pareil au final. Parce que même
j'ai.
au-delà de la langue, il y a la culture qui est différente.
C'est sûr, mais tu vois, moi j'ai démarré de zéro parce que j'avais un anglais qui n'était pas.
Ouais,
Enfin,
tu
qui.
savais dire The track is good, I like my bike.
Voilà, tu vois. C'est ça. Tu vois, j'ai appris les mots de notre milieu, de la moto, et puis après, de là à faire. Je dis un exemple comme je le prends toujours, cet exemple avec Rothschild, parce que Rothschild, c'est les plus grosses élites du monde, et enfin, on va dire, c'est une entreprise où tu as des grosses têtes en élite, et du coup. Eux, c'est un anglais impeccable qu'ils ont appris nickel dans les plus grandes études, les plus grandes écoles en Angleterre ou en Suisse, ou voilà. Donc quand tu arrives là et toi tu es un Anglais où j'ai arrêté l'école à 15 ans, tu te dis bon, tu vois, j'ai intérêt à être impactant parce que sinon je vais passer pour un rigolo, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Et ça se passe bien du coup? Ça passe bien du coup le discours, c'est tu le perçois comment?
Oui, ça va. Alors ce qui est difficile, c'est que tu vois, quand c'est des conférences internationales, tu as toutes les nationalités. Tu vois, il y a 10 jours, j'étais en KSA, en Arabie Saoudite. Et là, tu vois, tu as toutes sortes de nationalités. Donc, tu peux avoir des Pakistanais, des gars du Kazakhstan, des Indiens, des Dubaïotes, des Émiratis. Et du coup, chacun a un anglais qui est un peu différent. Et tu vois, ce n'est pas le même anglais universel. Tu vois, c'est un anglais où certaines expressions ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut s'adapter et que ça puisse résonner le plus possible à tous, quoi. Donc non, c'est cool, j'aime bien. J'aime bien, et puis tu rencontres toutes sortes de gens et tu voyages beaucoup et ça crée beaucoup d'opportunités.
Comment ça va physiquement? Est-ce que avec les années, après ton accident, est-ce que le temps qui passe, c'est de plus en plus dur pour toi, ou au contraire, tu progresses encore?
J'ai pas forcément progressé, mais tu vois, j'ai réussi à m'adapter à pas mal de choses. Je sais pas, justement, je réfléchissais tout à l'heure, le dernier live qu'on avait fait, je crois que c'était quoi, 2018?
Ouais, c'est ça.
Peut-être ça, 2018-2019, ouais, je pense.
Et je me disais, est-ce que depuis, tu vois, j'ai encore progressé? Je pense pas, mais du moins, déjà, j'ai réussi à garder le même cap, ce qui est déjà pas mal, parce que tu vois, garder la même autonomie, c'est quand même important, hein, parce que tu peux aller en te dégradant. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après,
c'est pour ça que je te pose cette question, parce que même les valides, entre guillemets, on vieillit tous, et tu vois, il y a des choses qu'on a de plus en plus de mal à faire, donc je pense que, je pensais que tu aurais pu le ressentir comme ça déjà, malgré ton jeune âge.
Après, je m'entraîne quand même, enfin, j'ai une bonne hygiène de vie, je me couche tôt, je mange très bien, et je fais pas n'importe quoi, donc du coup, ça, c'est hyper important dans toute la... Non, je dirais dans ta santé. Donc, ce qui permet de me garder un périmètre de marche qui est bon et de pas être en obésité, etc. Parce que tu vois, par exemple, au Covid, je me souviens, après la natation, je sais pas, je pesais pas grand chose, je pesais peut-être 82, tu vois, dans ces eaux-là. Et je me suis dit, je vais voir si je vais essayer de maigrir, tu vois. 82 par rapport à 1m92, c'est pas grand chose, mais je dis vas-y, je vais essayer de voir 5 kilos en moins, tu vois. Et malgré tout, 5 kilos en moins, c'est énorme pour moi, parce que c'est 5 kilos en moins sur mes jambes, tu vois. J'ai très peu de muscles, donc 5 kilos pour moi, c'est hyper important. C'est 5 kilos en moins que tu mets pour que tu pousses pas sur ton fauteuil, que tu as moins sur tes jambes, que tu abîmes moins tes genoux à longueur de journée. Donc j'essaie de me tenir à une rigueur.
Ces 5 kilos, ils sont utiles pour toi ou pas, dans le sens où tu sais, souvent, enfin, ça peut être 5 kilos ou peut-être même 3 sur les 5 de masse musculaire qui te permettent à toi de te relever plus facilement ou pas. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'au contraire c'est de la masse grasse qui fait que tu vas plus forcer pour te relever?
Non, je dirais que c'est pas forcément de la masse grasse, non, c'est plus c'est plus de la masse grasse que musculaire. Tu vois, je vais pas forcément perdre musculairement, mais j'ai déjà pas beaucoup de gras, mais on va dire je suis non, c'est après le truc, c'est que tu vois, quand je m'entraîne pas mal en natation, ce que je nage encore beaucoup, tu prends un peu plus en musculature, mais du coup je reprends en poids, donc il faut trouver voilà un juste milieu. D'ailleurs, en natation, c'était un sujet aussi, parce que tu vois, pareil, tu tractes, il faut trouver le bon compromis en natation, où tu dois être puissant sans être trop lourd musculairement. Donc parfois, tu vois, maintenant ça se fait de plus en plus, les sprinteurs, avant ils étaient gaulés énormes, tu vois, pour le 50 mètres crawl ou papillon, alors que la nouvelle génération, maintenant ils sont de plus en plus fins mais puissants.
D'accord.
Bon, tu as un commentaire sur le live, on a deux fois Mère. Il y a Michael Mermer qui dit qu'il est content de te revoir, Axel.
Ah,
et que de bons souvenirs avec toi, et te suit toujours, tu vois. Et tu l'avais oublié.
C'était Tilloa Floréville, un motoclub qui faisait un international tous les ans.
Voilà, très connu. Motoclub du Nord. Bon, moi, je dis à la sortie.
Picardie.
Pour nous, c'est le Nord, tu sais bien. petit commentaire, est-ce que tu as déjà participé à l'Enduropal? Je pense que ça fera une bonne transition pour ton prochain défi. Est-ce que tu y as déjà participé, même en jeune?
Ben non, en fait, jamais. Mais ça n'existait pas, le jeune, avant.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, toi, c'était dans les années... C'est quand que tu t'es blessé?
2010.
Ok.
Et en fait, ouais, le truc, c'est que non, je ne pouvais pas faire le touquet parce qu'il fallait avoir minimum 18 ans. Et j'avais, quand je roulais dans le sable avec Yam et que j'étais pas encore sur le championnat d'Europe, tout ça, j'avais 16 ans. Donc, ouais. Donc non, jamais pu faire le touquet, mais j'ai fait à l'époque Osgore, parce que Osgore, tu peux rouler à partir de 16 ans.
Ok. C'était, venant du Nord, c'était pour toi le touquet, ça, c'était un rêve quand tu étais jeune?
Bah, en vrai, c'était pas forcément un rêve. Un but ultime, mais c'est voilà, c'était dans la checklist un truc que j'aurais bien voulu faire, tu vois. C'est quelque chose que j'aurais peut-être fait un peu plus tard, pas forcément tout de suite, parce que ouais, je voulais pas forcément me spécialiser directement dans le sable, mais je pense que ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu faire clairement, parce que c'est de chez moi, et, tu vois.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que quand on est du Nord, nous on réalisait pas trop. Hein. C'est d'ailleurs toi qui nous en avais parlé. Tu as dit non, mais chez nous, le touquet, c'est vraiment un gros truc. Il y a des jeunes qui préféreraient gagner le touquet que de gagner une finale en SXUS. Bon, il n'est pas tout le monde n'est pas comme ça, mais ouais, c'est quand même assez incroyable.
Moi qui fais pas mal de conférences, à chaque fois, les gens me disent. Tu sais, quand je dis que j'ai fait de la moto, ils me disent « Ah ouais, l'Enduropal, t'as déjà fait l'Enduropal ?» Tu vois, c'est tout de suite le truc qui vient en tête. Et c'est normal, parce que c'est une course qui est ultra médiatisée.
Oui, mais ils ne savent même pas si t'as fait une GP à Loquette, quoi. Ils s'en foutent.
Carrément, non, mais ils savent même pas qu'il y a des... Eux, pour eux, c'est la course du siècle. Tu vois, les gens connaissent... Voilà, c'est la course. Donc ouais, ça fait rêver. Et c'est tant mieux, parce que c'est bon pour notre sport. Tu vois, tout à l'heure, j'avais une interview là... à la région, à Lille, et ils vont faire un truc avec l'Enduropal. Donc, tu vois, c'est bien, parce que c'est moteur pour la région, c'est moteur pour beaucoup de les commerçants, pour le sport, pour les concessionnaires, pour les marques. Enfin, voilà, c'est génial.
Bon, du coup, la transition est parfaite, hein, par rapport à ça. Tu as un nouvel objectif. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, pour ceux qui ne le connaissent pas, cet objectif pour cette année?
Après le BMX... dans ma jeunesse, et le motocross, puis la natation, et ensuite le Dakar, me revoilà pour un nouveau défi. Alors, boucler la boucle, j'aime bien dire ça, en fait, parce que voilà, c'est une épreuve que j'ai jamais pu faire. Donc là, pouvoir réaliser cette épreuve d'une certaine manière, alors évidemment, pas dans les mêmes conditions qu'avant, mais pouvoir la faire pendant que je suis encore assez jeune et avec des potes qui roulent, de ma génération qui roulent encore, je me dis que ça peut être un beau projet. Donc participer au touquet, non pas faire toute la course parce qu'avec mon handicap c'est trop compliqué, mais essayer de faire le départ et peut-être aller faire un tour, ça peut être déjà une victoire. On se rend pas compte, mais j'ai perdu 80% des muscles des jambes, donc au final remonter sur une moto, tu vois, quand on me voit debout, on pourrait croire que je suis presque valide entre guillemets.
D'ailleurs, on te voit debout en tenue avec les béquilles quand même. Ça veut dire que tu as quand même besoin.
C'est sûr. Mais tu vois, le mec, il peut se dire, putain, il est debout, alors qu'en fait, j'ai perdu 80% des muscles des jambes. J'ai juste les quadriceps et les psoas. Donc, c'est quand même pas grand-chose pour aller rouler.
D'ailleurs, là, on voit que tu te tiens quand même bien sur la moto. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça, parce que j'imagine que tu n'as que les quadriceps. Est-ce que tu arrives quand même à serrer la moto entre les jambes ou pas?
Alors, j'ai un peu d'adducteur, mais pas énorme. Ce qui est la chose la plus compliquée pour moi, c'est de trouver où sont mes pieds. Parce que j'ai aucune sensibilité dans les jambes.
Est-ce que juste avant de poursuivre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi le premier live ou qui n'ont pas suivi, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, revenir rapidement sur la base, dire que de l'accident, comment tu fais pour être debout alors que tu es un des rares à pouvoir te mettre debout avec ton handicap?
Tu es diagnostiqué paraplégique dans tous les cas.
Paraplégique, on appelle ça le terme précis, c'est paraparésique. Donc paraplégique incomplet, quoi.
D'accord.
En gros, ça veut dire que tu es paraplégique, mais tu as récupéré un ou deux muscles. Donc, tu es incomplet. Donc, en gros, moi, j'ai une blessure en L1-T10. Et c'est bête que j'ai pas la photo de la colonne parce que on aurait pu la mettre parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Et en fait, à la base, c'est vrai qu'on m'a dit que je remarcherais jamais, que c'était compliqué, que la colonne vertébrale était très endommagée. Et j'ai fait 2 ans de combat en rééducation où, au bout de quelques mois, j'ai les prémices de quelques petits muscles qui ont commencé à récupérer sur la cuisse de gauche, puis de droite, et ensuite une première victoire pour me mettre debout dans l'eau. Alors parfois, quand je dis ça à des valides, ça évoque pas grand-chose. Tu vois, on se dit debout dans l'eau, voilà. Mais pour moi, debout dans l'eau, c'était important pour moi, pour l'équipe, pour les gens qui m'entouraient. Parce que quand on est dans une rééducation comme ça, on n'est pas seul, hein. On a beau être leader, avoir le leadership, il y a tous des gens qui sont autour de toi, kinés, les amis, les parents, les médecins, qui peuvent s'essouffler au bout d'un moment. Parce que quand tu es pendant 1 an ou 2 ans à pas forcément récupérer ou récupérer très peu, bah, c'est compliqué mentalement de toujours avoir la motivation au quotidien. Et le problème de la colonne vertébrale, c'est qu'on n'a aucune visibilité. Bon, ça, dans le cross, vous connaissez un petit peu, parce que malheureusement, il y a beaucoup de blessés. Mais on n'a aucune visibilité, donc on ne sait jamais jusqu'où on pourra récupérer. Est-ce que ça sera 2 ans, 5 ans? Est-ce qu'on récupérera la jambe de gauche, de droite, ou tout, ou rien? Ça, en 2010 et encore en 2023, personne ne pourra vous le prédire. Donc c'est compliqué, parce que vous battez contre un mur constamment. Et combien de jeunes m'envoient des messages en me disant, bah, Axel, j'ai ça, 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 que je vais faire comme toi. Mais je leur dis, attendez, chaque blessure est différente et on ne peut pas dire la suite. Donc ce qui est difficile, c'est toujours ne pas avoir de visibilité, ne pas savoir comment se projeter. Donc tu te dis, je vais me battre en rééducation combien de temps? Est-ce que je vais me battre 2 ans à tourner en rond? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, là c'est foutu, j'accepte, je fais le deuil pour rebondir? Être résilient, comme je dis. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Et moi, ça faisait 1 an et demi, je stagnais à un moment donné. J'arrivais à me mettre debout dans l'eau, mais pas plus. Et là, je me suis dit, bon, au lieu de subir le changement, pourquoi pas créer le changement, m'adapter, trouver des solutions, essayer d'innover pour pallier à ces muscles qui sont paralysés. En fait, avec le père d'un ami d'enfance, j'ai développé des attelles en carbone qui viennent tenir mes chevilles à 80 degrés. Et donc, c'est des attelles qui font office du rôle des mollets, où avec ça, je vais pouvoir me remettre non plus debout dans l'eau, mais sur la terre ferme. Et là, je commence à faire un pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour, puis enchaîner les centaines d'allers-retours, pour finalement, au bout de 2 ans et demi, pouvoir ressortir de là, enfin, du centre de rééducation, en marchant 1 km, voire deux, avec deux béquilles et des attelles. Donc, même si j'ai aucune sensibilité dans les jambes, j'ai des muscles fonctionnels, quadriceps et adducteurs, qui me permettent, avec mes attelles, de me mettre debout et marcher. Donc
D'accord.
évidemment, ça a été une grosse victoire parce que par rapport au diagnostic pessimiste des médecins, ben voilà, jamais on aurait pu prétendre me remettre debout. Donc oui, c'était que du bonus, une belle victoire. Mais moi qui vivais pour la moto, la moto, c'était mon job, ma famille, mon hobby, mes hobbies, enfin, c'était tout. Là, je me retrouve avec cet écosystème qui est terminé du jour au lendemain, à 20 ans, et en étant avec un handicap. Donc, tu vois, mentalement, c'est quand même assez compliqué en se disant que ce que tu aimes le plus au monde, tu ne peux plus le faire et tu vas devoir te reconstruire dans une nouvelle vie avec une chaise roulante, tu vois. Donc, tu as 10 000 questions. Tu te dis, voilà, est-ce que je vais pouvoir conduire déjà? Est-ce que je vais pouvoir trouver un job, est-ce que je vais pouvoir trouver une femme, est-ce que je vais pouvoir faire du sport, et donc tu redémarres une nouvelle vie, hein, clairement. C'est quelque chose que je conçois qui est pas facile. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient positifs, j'ai eu la chance de tomber sur les bons kinés. Évidemment, on est toujours acteur de soi-même, hein, parce qu'on a beau avoir les gens qui sont autour, si t'es pas acteur de toi-même, tu feras jamais rien. Mais c'est pas... C'est quelque chose qui est difficile. Et je pense que les mois après, le moment où tu sors du centre de rééducation, si tu rebondis pas tout de suite, bah, tu es mort. Et malheureusement, parfois, on voit beaucoup de cas où, juste après l'accident, les jeunes n'arrivent pas forcément à rebondir derrière tout de suite. Donc, c'est là où tu tombes après un peu en dépression et tu tournes en rond. T'as pas forcément de but dans ta nouvelle vie et c'est compliqué. Donc c'est pour ça le fait d'avoir fait de la natation, ça a permis aussi d'avoir un vecteur et redonner du sens à cette nouvelle vie découvrir le monde du handicap, les Jeux paralympiques, et faire partie du team olympique en natation, avec la BPCE aussi, et créer des nouvelles opportunités. Jamais je ferais aujourd'hui ce que je fais si j'avais fait la natation, parce que jamais j'aurais découvert les conférences, par exemple, tu vois. Donc voilà.
Et si on t'avait dit à cette époque-là que 13-14 ans après, tu aurais un défi à moto aussi osé que celui que tu vas faire. Donc du coup, ce défi, explique-le de A à Z, parce que justement, pareil aussi, il y a
Alors,
peut-être des personnes qui ne le connaissent pas et qui ne savent pas ce que tu veux faire réellement et l'objectif que tu as au final.
l'objectif, c'est de faire le départ du Touquet. Quand je dis le départ, c'est tout le convoi, arriver sur la grille, parce que c'est, tu vois.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le Touquet, ça
Ouais.
démarre bien avant
Ça
la
démarre
plage.
déjà, voilà, pour moi, la course, elle démarre déjà dans le paddock, c'est pas sur la grille. Donc, surtout avec ma pathologie. Donc,
Alors,
arriver.
attends, vas-y, pars de là, du coup. Comment ça va se passer? Bon, je pense que tu sais ce que c'est le Touquet. Je pense que tu as pensé à tout parce que tu es quelqu'un de réfléchi. Mais est-ce que tu vas avoir un petit numéro? Est-ce que tu vas comment tu vas te rendre devant les grilles pour courir, aller chercher ta moto? Tout ça, comment ça va se
Bah
passer?
déjà, je veux dire le projet global. Donc, c'est de
Ouais,
faire
vas-y, vas-y, vas-y.
le arriver sur la grille de départ avec tout le monde, faire le départ, la ligne droite. Donc, voilà, ça peut être 5, 6, 7 kilomètres selon le tracé, la marée. Et le but, c'est d'arriver au premier virage et avoir la possibilité d'avoir un échappatoire si vraiment je suis loin ou c'est compliqué, ou potentiellement continuer jusque l'arrivée. Essayer de faire un tour. Donc après, ça, c'est des choses que je dois affiner. J'irai pas plus loin parce que après, c'est mettre en danger, c'est mettre en danger les autres et c'est compliqué. Le Touquet, bah voilà, c'est tu sais comme moi, hein, y a des mecs dans tous les sens. C'est pas parce que t'as accès à des trucs qui est handicapé que le mec il va s'arrêter. Si le mec il doit me percuter, il va rester à bloc et voilà, c'est comme ça. C'est la course, t'en peux rien. Donc ça serait pas raisonnable de vouloir faire. D'ailleurs, j'y arriverais pas physiquement parce que ma pathologie m'empêcherait de faire tout ça. De faire 3 heures de course, c'est impossible. Parce que certains ont cru que j'allais faire toute la course, tu vois. Et c'est strictement impossible, tu vois. Mais au moins, déjà, on se rend pas compte, mais faire le départ et essayer de faire un moitié de tour, ça peut être déjà une énorme victoire. Donc.
La moitié de tour, c'était le projet de base, ça? Parce que moi, j'avais entendu parler du départ quand on s'était vu, mais t'as ajouté ça après ou c'était prévu dès le départ? De se
Ouais,
dire
c'était.
peut-être que j'irai sur la ligne, au bout, enfin, jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi.
En gros, tu vois, je suis en train en ce moment d'essayer et de voir ce que je peux faire. Comme j'ai pas mal d'interrogations, je peux pas encore répondre réellement. Mais
Parce que tu roules quand même, t'as roulé, tu t'es entraîné un peu.
hier, je suis allé rouler. Ouais.
Ah,
La
mais
bonne nouvelle, c'est
t'as
que.
commencé que hier, du coup?
Ouais, en fait, c'est assez compliqué parce que. Bon, voilà, je suis un mec qui a un handicap et je veux aller rouler avec une licence. Et l'administratif, c'est pas si facile parce qu'il faut avoir une assurance, faut que tu sois assuré, il faut
Ah
qu'une des
ouais,
personnes
c'est
de la
sûr.
Fédé, ben oui, qui te disent est-ce que tu es apte à rouler. Et dans ce projet, c'est pas juste je m'inscris au Touquet et je vais rouler et basta. Non, dans ce projet, c'est faire péter les verrous avec la fédération, enlever les verrous avec l'organisateur, enlever les verrous avec toute la partie moto adaptation. Donc ouais, c'est pas tu dis vas-y, je m'inscris et je roule. Non. La Fédé, ils m'ont dit, mais attends, toi, t'es paraplégique, tu veux faire le départ, comment tu vas faire? Donc, on veut te voir rouler. Ils ont été très intelligents et je trouve ça super. Ils ne jugent pas les pilotes sur un dossier médical, mais sur leurs aptitudes à rouler, ce qui est génial. Là-dessus, ils sont au top parce que franchement, j'ai fait beaucoup de sport, natation, etc. Et parfois, ils jugent juste sur un dossier médical et ça n'a aucun sens parce que tu peux avoir un dossier médical lourd. Et être apte à faire beaucoup de choses. Et parfois, tu peux être avec un handicap, enfin avec un dossier médical léger, et être un mec qui sache pas rouler, tu vois. Donc là, hier, on a validé avec la Fédé. Il y a un mec qui s'appelle Stéphane Paulus. Vous devez peut-être connaître. Il roule aussi en moto vitesse. C'est un paraplégique et ça a été le premier à ouvrir la voie en vitesse pour les personnes handicapées. Et lui, il est délégué à la Fédé et c'est lui qui te dit si tu es apte à rouler. Donc tu dois passer des tests, savoir démarrer, t'arrêter, prendre un virage, tomber et relever la moto, prendre un départ, etc. Et lui, il est en fauteuil roulant, donc c'est bien parce que c'est un mec qui connaît le handicap qui te juge. Donc c'est pas des mecs qui connaissent rien au handicap. Donc là-dessus, c'est très bien. Et ils veulent ouvrir ils veulent ouvrir le cross, je pense, un peu au handisport, j'ai l'impression. Et c'est une bonne nouvelle. Je trouve ça cool, vraiment.
Et du coup, avec bon, peu d'entraînement, tu nous as dit que tu as commencé hier. Tu le sens comment, toi, parce que moi, bon, pour avoir participé au Touquet, quand tu nous as dit que tu voulais faire ça, je me suis dit, ouf. Je pensais, très franchement, avant ce soir, je pensais que tu allais avoir une dérogation, que quelqu'un allait, enfin, que tu allais attendre déjà tout le monde sur la grille de départ, pour pas avoir à faire le convoi, parce qu'on le sait, enfin, tous ceux qui ont participé au Touquet savent. Alors, nous, on avait des numéros un peu plus gros, hein. On n'était pas dans les petits numéros, mais on sait quand même que c'est la bataille, vraiment, sur la partie route. Tout le monde défend sa place dès cette partie-là. Même quand on passe de la partie route à la partie sable, il y a déjà, rien que là, avant le
Ça,
départ, il y a
c'est
déjà pas
chaud,
mal de
mais
fuite. Et c'est pour ça que je pensais que tu allais être déjà sur la grille de départ, que tu allais avoir une sorte de dérogation pour ça.
mais tout le monde
Mais.
pense que. Alors, certains pensent que je vais faire le départ tout seul, mais non, c'est pas le projet. Le projet, c'est de faire le départ avec tout le monde, sinon ça n'a pas de sens. Donc, ça va être, voilà, ça va être. On essaie de trouver des solutions. Tu vois, les filles ont un dossard rose, les jeunes ont un dossard, je sais plus quelle couleur, et je leur dis, bah voilà, les handicapés, ils peuvent avoir un dossard spécifique. Donc voilà, mais en tout cas, je ne serai pas devant tout le monde et arriver solo sur la grille et partir. Non, voilà, ça sera quelque chose d'assez global, quoi. Je ne serai pas dans le gros paquet, voilà, mais potentiellement, pour des questions de sécurité, avec un bon groupe, des mecs qui vont pas se taper dessus, voilà, ou peut-être faire une barrière avec des pilotes, justement. On discutait avec Yam. Pour voir si je pourrais pas être protégé avec d'autres pilotes, tu vois, de chez Yam, pour m'encercler et protéger le convoi jusqu'au truc. Enfin, tu vois. Pourquoi pas ça? Donc, trouver des solutions. En tout cas, j'aurais pas de dérogation spécifique.
Et arriver sur la plage, comment tu vas faire? Qui c'est qui va te tenir la moto? Parce que là, pour ceux qui ne savent pas, pareil, hein, il y a le convoi, vous arrivez sur la plage, et là, tu attends qu'il tire l'élastique pour partir.
Alors ça, pareil, préparer une trace et tout, pas possible. Du coup, on essaie de trouver des solutions pour faire une moto hyper basse pour que je puisse mettre mes jambes comme des quilles. En gros, quand je lâche mes pieds, bah, ils vont toucher le sol direct. Comme ça, je suis stable.
Ah ouais.
Ouais, c'est la seule
Ah ouais.
solution.
D'accord. Et ouais, quand même. Et ça,
Creuser la selle.
tu arrives à le faire, ça? Ce que tu disais que tu sentais pas, tu vas pas sentir quand tu as les pieds au sol au final.
Je sens pas, mais je sens que j'ai, enfin, je sens que j'ai les pieds qui sont tendus et que voilà, je suis assez stable.
Ok.
Donc après ça, je m'attendais à pire, mais ça va. Vu qu'on arrive à baisser la moto, on arrive à creuser la selle. Du coup, comme je suis assez grand, je peux avoir très vite les pieds qui touchent facilement. Du coup,
Ok,
c'est
du coup,
cool.
si
C'est cool parce qu'au moins, ça permet d'être autonome.
Et du coup, pour la partie moto, vu que tu veux faire le all shot, on sait que les autres pilotes, autant IAM que les autres marques, ont des avions de chasse aussi. Comment ça va se passer pour toi? Tu vas avoir encore
Ça,
plus d'un
ça.
avion de chasse?
Du coup, je vais rouler Yam.
Ouais.
En fait, c'est une belle histoire parce que j'ai en 2000, donc en 2007, j'ai fait Hossegor, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je roulais Yamaha à l'époque avec Arnaud de Mester et Arnaud. Moi, je n'étais pas pilote factory, mais on s'entraînait ensemble, etc. J'avais fait une bonne place, j'avais fait 3 Hossegor à 16 ans, 4,50 pour vous dire. Justement, j'en parlais avec José Leloir hier. C'était Arnaud, Team Potisac qui avait gagné, Arnaud qui avait fait 2, et moi j'avais fait 3 à 16 ans. Et à l'époque, Yann m'avait dit, bah, écoute Axel, on aimerait bien que tu prennes la suite d'Arnaud et que tu fasses que du sable. Mais moi, à l'époque, tu vois, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Moi, j'étais focus sur les Grands Prix, Championnat d'Europe, enfin, c'était ce que je voulais faire. Le sable, ça ne fait pas autant d'ampleur en plus que. Autant qu'aujourd'hui. Et là, quand j'avais le projet, à la base, je voulais faire ça sur une moto électrique avec la Stark. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Avec la Stark, tu dois pas passer les vitesses, il n'y a pas d'embrayage, tu n'as pas de peur de caler parce que voilà, c'est électrique, tu n'as pas besoin de démarrer à la moto. Donc au début, on avait commencé à monter le projet avec Ox Moto, qui franchement, ils étaient à fond, ils m'ont aidé à fond, ils étaient top sur le projet, mais la moto n'est pas forcément encore faite pour faire des longues lignes droites à bloc et il n'y a pas assez de recul pour être sûr que tout peut bien se passer. Donc, du coup,
Parce que vous aviez commencé à communiquer là-dessus, j'ai vu des posts
Ouais,
passer où t'es avec la moto et tout. Tu avais essayé un petit peu dans le sable quand même ou
je l'ai
c'était juste.
essayé, je me suis régalé parce que elle est géniale, la moto elle est ultra maniable, j'arrivais à rouler, tu vois, c'est comme un VTT au final, sauf que tu accélères, les freins au guidon, enfin pour moi c'était top, pour mon handicap c'était royal. Mais le truc c'est que voilà, 170 pendant 8 km, il faudrait faire beaucoup plus de tests, on peut pas faire trop de tests. Parce qu'il faudrait aller sur les plages, enfin, c'est un peu compliqué. Donc du coup, finalement, le projet était, il aurait fallu attendre, je pense, encore 1 an ou 1 an et demi pour avoir du recul pour bien préparer la moto. Et moi, j'ai pas 1 an et demi parce que le projet doit se faire en 2024 absolument. Pourquoi? Parce que pour la petite anecdote, je l'ai dit au passage, j'ai un film documentaire qui est en train de se tourner sur ma vie avec Canal. En premier lieu Canal Plus et après peut-être une plateforme. Donc du coup c'est un projet qui est
Alors, pas
sur un
uniquement sur
an.
le projet, du coup. Pas uniquement sur ce projet Touquet.
En fait c'est un film documentaire global sur une rétrospective sur toute ma vie, mais avec un focus sur le défi de l'Enduropal de Touquet. Et
OK.
donc ils me suivent 4 jours par mois pendant 1 an. Du coup on peut pas décaler tout ce projet parce que voilà il y a des post-prod, parce qu'il y a Il y a des contrats qui sont signés parce qu'il y a une diffusion qui est avec une date précise, etc. Donc du coup, pas possible de décaler le projet. Et je me suis dit, bon, je vais aller voir Yama avec qui j'ai roulé à l'époque dans le sable. On se connaît bien, on a toujours été en bon terme. Quand on s'est vu à OSX, à Paris, là, à Bercy, à la U Arena, je suis allé voir Yama et puis je leur ai parlé du projet. Et eux, ils m'ont dit, écoute, Axel, t'es le bienvenu, t'as toujours été dans la famille on est à fond derrière toi pour mettre tout en œuvre pour préparer une moto qui va bien et dans les meilleures conditions. Donc l'histoire est belle parce que voilà, j'ai roulé avec eux dans le sable à l'époque. Là, c'est reroulé sur une marque avec laquelle voilà, j'ai roulé avant mon accident. Une marque qui est quand même assez forte évidemment sur le Touquet, hein, qui est l'une des meilleures motos. Et surtout, avoir. Comme coéquipier, Milko Potisek, avec qui j'ai roulé et qui est un pote et avec qui on s'entend super bien. Donc voilà, je trouve ça, l'image est forte, quoi. Je trouve ça vraiment cool. Donc du coup, j'ai empilé avec Yamaha. Donc on a dû adapter une moto parce que là, embrayage oblige, adapter un frein spécifique, avoir un adaptateur pour passer les vitesses. Donc voilà,
Ce
beaucoup de
que j'allais te
contraintes.
dire, c'est ce qu'on voit un peu sur cette image. Alors, c'est un peu petit, mais on voit que tu es en train de toucher l'adaptateur. Non, c'est ça?
Ouais, c'est ça en fait. Donc on a un récluse. Donc le récluse, c'est un embrayage automatique en gros, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un embrayage pas mal utilisé en enduro ou aux US en Baja. D'ailleurs, ils vont commencer à rouler en SX, je crois, avec en 2,5. J'ai cru voir que Star Racing, ils y roulaient en récluse là déjà pour le Supercross.
D'accord.
Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, t'as beau être en 2, 3, 4, 5, à chaque fois que tu t'arrêtes, le récluse vient embrayer automatiquement. Donc en fait, tu t'arrêtes quand tu veux. Et tu repars comme une moto automatique, en gros. La seule contrainte, c'est que tu dois quand même passer des vitesses. Et donc avec ça, j'ai dû mettre en place un shifter. Donc c'est un vérin qui vient tirer ton levier de ton sélecteur pour passer les vitesses électroniquement. Donc en fait, ce shifter est connecté à la batterie de démarrage de la moto et ça donne une impulsion électrique et hop, ça passe les vitesses. Tu passes les vitesses à la main, quoi.
D'accord. C'est technique.
Je me pose plein de questions. Je me dis, quand tu vois comment c'est au Touquet, tu sais, la veille, quand tu laisses la moto sous une bâche et tout, là, il faut pas qu'il y ait de conneries sur la batterie, quoi. Encore moins que les autres motos.
C'est sûr. Justement, là, on n'avait plus de batterie, enfin, parce qu'on a eu un problème en test de shifter, on a dû changer la batterie. Tu vois, je me suis dit, putain, s'il n'y a plus de batterie sur le grille départ, mais. Et voilà, c'est des choses à développer.
À développer, bien sûr.
Et le frein, et du coup, du coup, on voit sur la photo, tu vois, j'ai quand même un embrayage qui ne me sert pas forcément à embrayer, mais à relancer, par exemple, si c'est vraiment mou. Et j'ai le frein qui est juste en dessous, le frein arrière qui est à la main, au guidon. Donc,
D'accord. Ah oui, embrayage
récluse.
en haut, du coup.
Ouais, donc Recluse te fournit un frein qui vient se mettre au guidon, un frein arrière qui vient se mettre au guidon. Donc avec ça, bah, c'est top parce que ça me permet d'être autonome.
D'accord. Ouais, bah,
D'accord.
beau,
Et
beau
la
projet.
moto, aujourd'hui, pour faire un shot touquet, c'est quoi? 170? C'est ce que tu disais tout à l'heure, 170 km/h sur la ligne droite?
Bon, après, le shot, ça, c'est une option. J'aimerais bien déjà faire le départ dans les bonnes conditions. Tu vois, ça serait top. Oui, c'est dans ces eaux-là.
Ok.
Après, il y a tellement de paramètres. Tu vois, il y a tellement de paramètres. Donc, tu vois, je me dis, ça serait déjà être derrière la grille, c'est déjà énorme. Après, il se passera ce qui se passera. Si, évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui part pour être dernier, on le sait, mais si déjà tout se passe bien, et voilà, j'en sais rien, je suis 10, 5, ou j'en sais rien, c'est déjà génial. Attends, c'est tout le parcours pour arriver là, la logistique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, d'où aussi, je suis content d'avoir Yamaha France derrière moi parce que on l'expérience, parce qu'il y a toute une équipe derrière et je peux profiter toute l'expérience derrière pour le touquet. Donc ça c'est quand même hyper important.
Tu as
T'as
parlé
pas
de la préparation de la moto. Physiquement, on a beaucoup pensé à toi, et Blaise. Quand on était au Maroc, là, on l'a dit en début de vidéo, on était au Maroc pour faire de l'enduro. On a beaucoup roulé sur la plage, parce que
Ouais.
là-bas, on peut le faire. Et en roulant, on a roulé 155 km/h, je crois que c'était,
Ouais,
avec
quasiment
des
160, ouais.
450 FE, ouais, quasiment 160. Et ça bouge. Franchement, moi, j'étais, tu vois, tu verrouilles vraiment avec tes jambes, tu appuies sur tes cale-pieds. Et je me suis dit, mais là, assis, sans pouvoir appuyer sur les cale-pieds, c'est franchement c'est chaud quoi, c'est dingue. Moi je
T'as la moto qui bouge dans tous les sens. Bon, après, la nôtre n'était pas préparée, c'était une enduro. On n'avait pas le bras aussi en rallongé, comme les top
On
pilotes,
avait des
mais
pneus, on avait des pneus de trail aussi,
nécessairement, on
des
avait des
pneus.
pneus en enduro. Voilà.
Oui,
Mais
ouais, t'avais ça.
quand même, ça. Et par contre, nous, on avait une plage nickel, tu vois. Alors qu'au Touquet, c'est vrai que la plage n'est pas souvent nickel. Il y a des passages de 4x4, il y a un peu de tout.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, je peux quand même un petit peu. Parce que là, tu vois, quand tu parlais du Maroc, là, est-ce que tu serrais à bloc la moto?
On serrait quand même un peu.
Alors moi, c'est parce que j'ai jamais été aussi vite sur une moto et j'ai jamais roulé dans le sable de ma vie, quasiment.
Parce
Donc
que au
ouais, je
final,
la serrais, clairement.
moi, pour avoir fait les deux, si tu veux, pour avoir fait et le Touquet et le Maroc,
Ouais.
c'était 1000 fois plus facile au Maroc sur une plage nickel. Au Touquet, tu sais,
Ouais.
tu as la plage
Non, mais
qui est quand
après.
même, même au premier tour, qui est quand même un peu défoncée, des courses de la veille, des quads, des juniors, des
C'est
vintage, tu vois, tu as
sûr.
quand même la plage
C'est sûr.
qui est
Après,
bonne.
je peux quand même un petit peu tenir la moto. Je suis pas non plus. J'ai la possibilité de serrer un petit peu. Mais ouais, c'est sûr que c'est plein d'interrogations. Après, voilà, on est en train de faire plein de tests pour essayer toutes les éventualités. Mais c'est pareil, truc simple, mettre des bottes. Tu vois, moi j'ai des attelles, donc tu vois, mettre mes attelles dans les bottes, rien que ça, c'est compliqué. Du coup, je roule avec des bottes de trial parce que elles sont plus souples à mettre, plus légères, la semelle est plus fine. Du coup, le ressenti est mieux pour moi. Donc voilà. Donc
Des bottes de motocross seraient pas assez rigides en fait pour te maintenir. Tu es obligé d'avoir tes attelles
Non,
en fait.
en fait c'est trop rigide.
D'accord.
Tu vois,
Ok.
les bottes de trial, c'est du caoutchouc, enfin, tu les plies dans tous les sens. Et
Ce que je
moi,
voulais dire, c'était est-ce que tu. Moi, je pensais virer les attelles et mettre des bottes. C'est pas possible du coup.
non, parce que j'arrive pas à mettre mes pieds dedans, mes doigts de pied
Ok.
se recroquevillent, et ça, c'est trop
D'accord.
souple aussi.
Ok.
Et là, on a vu sur les photos, ça c'est, comme tu le disais hier, c'était pour la FFM, c'était une simulation de chute, c'est pas une vraie chute.
Attends, je vois pas l'écran.
Ah,
Moi
tu vois pas là
je le vois très
le.
bien.
En
T'es
fait,
assis par terre, on dirait que t'as
ah
les jambes coincées
mais
sous ta moto.
les gars, c'était l'horreur. Il pleuvait, mais des trompes d'eau, un truc de fou.
C'est vrai?
Ah, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Tu vois, ça fait longtemps que tu sais,
Tout qu'il a
j'ai fait la
démarré.
natation en indoor ou outdoor, mais au soleil. Après, j'ai fait le Dakar, j'avais le toit avec le CSV. Et là, je me retrouve dehors à 4 degrés à Dunkerque. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? À devoir valider la licence. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que le gars m'a dit, OK, maintenant tu mets ta moto par terre, et là, maintenant tu dois la relever et me prouver que tu sais remonter dessus. Et ça, c'était chaud parce qu'à un moment donné, j'essaye, j'y arrive pas, j'essaye une autre manière, j'y arrive pas, j'essaye encore une autre manière, j'y arrive pas. Au bout d'un moment, j'arrive à trouver une technique et j'arrive tout de même à relever la moto.
T'avais
Et
jamais travaillé ça avant, tu l'avais jamais fait avant, relever une moto.
ben,
Là,
en
tu l'as
fait, je
fait, là,
savais
c'était la
pas que
phase de
c'était.
test, là.
Jamais j'aurais pensé que c'était l'un des critères parce que, tu sais, en fait, la validation du projet s'est fait le 5 octobre dernier, là, donc il y a un mois et demi. Donc imagine, en un mois et demi, j'ai dû tout mettre en place, que ce soit la moto, contacter la Fédé, l'organisateur. Parce que Canal, enfin Réservoir Prod et Canal Plus m'ont donné le go seulement le 5 octobre. Et tant qu'on n'avait pas le go, bah, je n'allais pas voir Yamaha en disant oh, les gars, il faut me préparer une moto. Alors qu'un mois plus tard, je leur dis bah non, le projet finalement, c'est pas, ça ne se fait pas, tu vois. Donc j'ai dû attendre vraiment que tout soit signé chez Canal pour que le projet soit monté. Et en fait, c'est pour ça, quand j'ai eu la Fédé, eux, ils m'ont dit, bah, y a ça, et ils m'avaient pas dit qu'il fallait relever la moto. Donc ça, je l'ai su, voilà, le jour J. Mais voilà, ça l'a fait, c'est le principal. Et
T'as
tu vois, j'ai
réussi du
dû...
coup.
Ouais, j'ai réussi, et du coup, tout a été validé. Et le gars a dit, t'es apte à rouler, monsieur.
Trop bien.
À rouler.
Est-ce que tu auras des genouillères aussi pour te tenir les jambes? Je pense aussi avec la. Si tu roules vite, hein, si tu es à 160, 170, avec le vent qui arrive, si tu n'as pas trop d'adducteurs, est-ce que tu auras un moyen de maintenir tes jambes collées à la moto et que ça ne s'écarte pas?
Ouais, ça ira, ça, je pense. Parce que tu sais,
Ouais.
comme j'étais un peu en arrière, t'as les jambes un peu tendues, du coup, au final, elles sont moins, elles vont moins s'ouvrir que si tu étais vraiment à 90 degrés. Tu vois ce que je veux
D'accord.
dire?
Ouais. Donc tu n'auras pas de genouillère en fait, tu seras comme ça avec pantalon.
Ouais, comme ça, pantalon. Je vais rouler first racing.
Ok.
Et je roule Shoei comme avant, comme à
Comme à la
l'époque.
belle époque, quoi.
Voilà, belle époque, pareil.
Ouais.
Ils n'ont pas trop changé d'ailleurs depuis la belle époque.
C'est vrai, j'ai hésité à ressortir mon Shoei 2010, mais apparemment, c'est plus bon de c'est les lois.
Ouais. Et pour le coup, si tu arrives à relever ta moto mais que tu montes ce casque, il t'aurait pas validé le projet.
Non, mais c'est bien, tu
On
vois.
te voit là, on te voit tout pimpant devant l'objectif.
L'idée, c'est voilà, c'est ça, c'est d'avoir un truc sympa aussi, tu vois. Donc voilà, d'avoir une tenue sympa avec casque sympa. Et... faire un truc propre quoi tu vois donc non je suis content d'être bien habillé rouler first et puis
J'en rêvais pas, moi,
remettre
tiens,
le
de
problème
ton enthousiasme légendaire. C'était toujours pareil, Axel, à chaque fois, quel que soit le projet, tu y vas à fond dedans. Mais là, franchement, c'est un truc de malade, quand même. Honnêtement, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, dites-nous hein, en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que le Touquet, ça vous parle pas. Peut-être que vous vous dites que c'est comme la plage quand vous allez en vacances avec votre serviette.
non.
Mais c'est pas ça, le Touquet. C'est pas vraiment ça, en fait. Et là, ouais, c'est ne serait-ce que le convoi et tout. Fait... Pour l'avoir vu, moi je l'ai même pas vécu, hein, comme Blaise a pu le vivre. Mais ouais, c'est franchement, c'est un gros, gros projet. Ouais.
Ouais, c'est en
C'est top.
fait, le fait quand on le vit, tous ceux qui l'ont vécu, qui nous écoutent et qui l'ont vécu, vont savoir de quoi je parle. Hein, parce que au final, même si tu veux le faire vraiment, qu'on parte en première vague ou en deuxième vague, on a quand même, si tu attends devant les grilles, et quand les grilles s'ouvrent, c'est comme si on lâchait des animaux le jour des soldes, tu
Ah,
vois. C'est la folie. Tout le monde se marche dessus, se bouscule, se pousse. Et ensuite, tu arrives à ta moto, tu enlèves ta bâche. Une fois que tu as enlevé ta bâche, tu prends ta moto, tu cours jusqu'au grill pour gagner, essayer de grappiller des places. Et là, tu vois, tu te dis, bon, c'est bon, là, ça a commencé. Et ensuite, tu as le convoi. Tu vois, donc, ça veut dire que la plupart, tous ceux qui n'ont jamais participé, se disent, ouais, le convoi, c'est la guerre. Non, non, c'est la guerre avant le convoi, quand les grilles s'ouvrent et que là, tu vas chercher ta moto. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toutes ces. Ben, j'ai tout ce vécu en fait où je me dis waouh, si tu arrives à passer ça, déjà c'est énorme. Si tu arrives à passer cette deuxième partie, c'est énorme. Troisième, c'est encore plus énorme.
Mais
Donc
même avant ça, tu as la réservation du logement, mais même plein de petits trucs qui se prévoient des mois à l'avance. Je me rappelle, on faisait 20 000 pas par jour, je crois, au Touquet, parce que tu marches toute la journée, tout est loin, aller au contrôle technique et tout. Tu vas faire des kilomètres en fauteuil roulant, je pense, du coup, Axel aussi. Parce que
bah oui,
ça,
non.
que tu sois en première vague ou en dernière vague, tu es obligé de faire tout ça au final, quoi.
Non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi avec Yam, il y a cette expérience où je pense que on peut optimiser tout ça et pas perdre de temps sur plein de choses. Tu vois, tu parlais du contrôle technique, aller à gauche, à droite, machin. Parce que tu vois, toi, comment tu fais quand tu ramènes ta moto au contrôle technique, tu la pousses et voilà. Moi, je ne peux pas pousser à ma moto, tu vois.
Oui, donc toi, tu ne feras pas ça, ça sera transparent pour
Ouais,
toi.
d'office, je dois avoir besoin d'un mécano. Enfin, tu vois, c'est une logistique qui est complètement différente. Donc, mais voilà, après, c'est les projets. Tu sais, quand j'ai été au Dakar, c'était pas quelque chose qui était gagné d'avance, hein. Tu vois, au Dakar, alors, je ne sais pas si les gens, enfin, les passionnés, il y a des passionnés de moto ici, mais forcément, ils suivent le Dakar. Mais le Dakar, on ne se rend pas compte, mais j'ai quand même gagné le Dakar en SSV standard, en T4. Et je fais 6 au général en SSV, c'est une énorme performance parce que pour toute la logistique, enfin voilà, moi j'ai des soins médicaux, plein de contraintes voilà, auxquelles je dois faire donc, par rapport à Invalide. Donc rien que ça, c'était une victoire d'être à l'arrivée et en plus gagner, ça c'était juste dingue. Mais ouais, c'était une super aventure. C'était génial, franchement. Le Dakar, pour le coup, tu vois, c'est tellement long et éprouvant que je me rendais pas compte. Tu vois, le Touquet, je connais un peu l'épreuve parce que voilà, c'est chez moi, je l'ai déjà vu. Le convoi, même si je ne l'ai pas vécu, j'ai l'image en tête, tu vois. Mais le Dakar, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Tu as vu des images à la télé, mais tu vois, tu dis, ouais, 10 000 km, c'est quoi 10 000 km sur 15 jours? Tu te rends pas compte, tu vois, quand on dit
Ouais,
ça.
puis c'est le manque de sommeil et plein de choses
Le
que tu
manque
vois
de
pas à la
sommeil,
télé.
les
Déjà,
liaisons.
quand c'est dur pour un valide, c'est encore plus dur pour quelqu'un qui a des, comme tu dis, des soins médicaux, tout le reste, dont on pense pas
Les
nous, forcément.
liaisons, quand tu crèves, moi je pouvais pas aider le copilote. Quand t'es ensablé, il y en a qu'un qui pouvait sortir. Enfin, tu vois, c'était une énorme logistique. Donc voilà, je pense qu'il faut les projets, ça se prépare avant et pas le jour même. Et c'est pour ça qu'il faut être, faut bien anticiper. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux.
Une question intéressante de Gilou qui nous dit qu'il a déjà dialogué avec toi à la radio avec Guy Pilarsic. Désolé si j'écorche un peu le nom, avant qu'il soit au Dakar. Je pense que ce projet est au-delà du raisonnable mais respectable. Je suis moi-même indie. Et que dit ton entourage, voire ton entourage médical par rapport à ce projet?
Ben, certains me posent la question en me disant ouais, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux le faire et tout.
Sachant que tu vis pas de ça aujourd'hui, tu nous l'as bien dit en début de live,
Ouais,
toi aujourd'hui,
pas du tout.
100% de tes revenus, voilà, tu es conférencier professionnel, voilà, personne t'a dit va faire ça si tu veux
Ça te fait
continuer
rire,
à
je vois le
manger à la fin du mois.
conférencier professionnel.
Non, non, je n'ai pas dit en anglais, j'aurais pu.
Bah oui, non, c'est parce que voilà, je pense que tu sais, depuis 2021, j'ai pas fait de défis, alors que tous les ans, normalement, j'ai des défis, des choses à faire. Donc voilà, forcément, c'est quelque chose qui me titillait depuis un moment. J'attendais de le faire vraiment au moment opportun. Et là, ça y est, l'opportunité avec Canal, elle s'est déclenchée. Et on a monté le projet et go, quoi. Donc là, on lance le Je peux 2024, parce qu'en 2020, au Dakar, j'avais lancé le slogan hashtag Je peux 2020. Donc là, je peux 2024, et il y aura encore un je peux 2025 et 2026. Voilà.
Tu vas pas nous
Ça sera plein.
teaser. Est-ce qu'on terminerait pas ce live par un petit teasing de ce que ça sera en 2025 et 2026?
Là, je peux
T'as déjà
pas.
une idée, clairement ou pas?
Moi, si je sais?
Ouais, si tu sais, si t'as déjà une
Ah
idée.
oui, je sais, ouais, j'ai déjà les deux prochains défis. Ouais.
D'accord, ouais, et tu le dis pas, tu le gardes pour
Non,
toi.
parce que si il y a une saison 2 ou 3 après,
D'accord.
tu vois.
On aurait le teasing de toutes
Voilà.
les saisons.
Question technique sur YouTube. Amortisseur de direction pour éviter qu'elle bouge la moto ou pas?
Je pense pas que j'aurai d'amortisseur de direction, non. À mon avis, je pense pas que j'aurai ça, non.
Tu vas
Je pense.
tester quand même, enfin, tu vas arriver à trouver une plage qui t'accepte pour aller tester ça ou
Bon,
pas?
c'est compliqué, tu vois, justement,
Ouais,
avec
c'est ça.
pour faire les images et tout avec Canal, on avait pensé à aller à Agadir, tu vois, parce que bah, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est là-bas, c'est top pour.
Ouais, c'est la liberté. Ouais.
Bah oui,
Clairement,
pour aider, pour
enfin,
relaxer.
quand on y a roulé ce week-end, on s'est dit, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas venu ici 3 semaines, louer une moto et
Ah bah
rouler
oui,
que à l'endroit où on était?
c'est
Tu
top. Tu peux.
as 10 km où tu peux faire ce que tu veux dans des dunes, il n'y a personne, tu es tranquille,
Bah
tu
oui,
peux aller faire 10 circuits si tu veux. C'est trop
ça
bien.
c'est clair, ça nous manque, hein. Ça nous
Ouais.
manque. Mais voilà, donc non, on doit faire quelques tests après. Je pense pas que j'aurai d'amortisseur direction, non. Des bonnes suspensions, certainement, c'est sûr, déjà, dans un premier temps, mais pas d'amortisseur de direction, ça c'est clair.
Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles on n'a pas encore pensé, nous, et que toi, tu as en tête?
Bah, tu l'as dit tout à l'heure, mais ouais, c'est vrai, le passage du bitume à la plage, ça a tendu.
Ouais, celui-là, il y a beaucoup
Ouais,
de chutes,
c'est pas facile. Ouais.
et ouais,
Énormément de chutes là.
très tendu.
Ouais, en fait, ça fait une rampe qui descend sur la plage, et là, le sable est mou. Et ouais, et si tu rentres pas dans les premiers en plus, dans ce virage-là, ça va être
La colle,
déboîté, quoi.
c'est
Et
la colle.
puis, t'as déjà vu des GoPro ou pas de cet endroit-là?
Oui, j'ai vu. Non, mais
Ouais,
t'inquiète, j'ai revu, j'ai vu 100 millions de fois les vidéos pour essayer de m'imprégner du truc. En 2022, je suis allé sur le départ, sur la grille, j'ai suivi le convoi. Enfin, c'est pas un projet que j'ai fait comme ça. Hein.
ouais.
En 2022, je suis allé dans le convoi et j'ai tout suivi en 4x4 de A à Z pour voir comment ça se passait, tu vois. Donc, tu vois, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est un projet qui se travaille depuis déjà un petit moment et
Parce
que j'ai
que
voulu.
moi, je te dis ça parce que j'ai regardé la première fois que j'ai regardé la GoPro, c'est quand on s'y est intéressé l'année où je l'ai fait avant. Très franchement, avant ça m'intéressait pas du tout le Touquet. Et l'année où on a fait nous aussi
Oh,
ce
2022,
défi,
tu l'as fait en 2022 justement, là, cette
ouais,
année-là.
2022, l'année où on a fait ce défi, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder une GoPro. Alors. Et quand je regardais la GoPro, je crois que c'était Romain Dumontier sur la
Ah
GoPro.
oui.
Je me dis, mais il descend, mais pourquoi il accélère là maintenant? Il y a la grille qui est
Ah oui,
là-bas. Je
ouais.
croyais que c'était le départ, en fait, que le départ se
Ah
met
oui.
là, tellement ils accéléraient. Tellement... C'est pas normal. Et en fait, oui, tout le monde accélère, j'ai compris après, pour être devant sur la grille et pour avoir une bonne place. Mais bon,
Non, mais
j'ai
c'est...
tellement habitué à faire, tu sais, à ce que tout le monde se positionne tranquillement sur la grille. Tu
Ah
vois,
non,
c'est pas
là,
une
c'est
course
non,
classique. Là, c'est pas une course classique. Hein.
non. C'est pas une course classique. Mais c'est ça qui est beau et c'est la magie du Touquet. Et... Non, mais j'ai hâte d'y être. Ça va être sympa. Après, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas. Je suis toujours un peu en contact avec la moto, malgré tout. Mais là, c'est vrai que je reviens vraiment dedans. Donc, ça fait plaisir aussi. C'est une belle revanche après toutes ces années.
On a une question de Brice qui nous dit, du coup, pourquoi ne pas faire en quad pour la stabilité et sécurisation? J'élargis ma question, mais pourquoi ne pas l'avoir fait en vintage, par exemple, aussi, où il y a un peu moins de monde? Après, vintage, c'est plus compliqué niveau technique, sûr que là,
Bah, je
maintenant,
pense que
Vaucluse.
déjà, ouais, alors en quad, oui, c'est quelque chose qui est. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de vivre le truc avec tout le monde, tu vois. Avec. Tu vois, enfin, j'ai envie de vivre le truc avec mes potes, avec qui j'ai roulé. C'est ça qui est fort, tu vois. Le faire en vintage ou en quad, je vais pas dire que ça n'a pas de sens, mais ça a moins de valeur, en tout cas, je parle personnellement. Pour moi, que de le faire être sur la grille départ à côté de Milko, à côté de Todd, à côté de pilotes comme ça. Enfin, je sais pas, tu vois, l'image, elle est forte, tu vois. Revenir sur une grille avec les top pilotes, c'est quelque chose qui est important, qui est cool. Après toutes ces années, c'est pas mal. Donc, ouais, c'est pour ça que je choisis de faire ça le dimanche. Ouais.
Physiquement, tu vas t'entraîner, tu vas avoir un entraînement particulier jusqu'à cet événement ou pas?
Alors. Moi, je nage beaucoup encore, enfin beaucoup, moins qu'avant, mais je nage encore. Et je vais mettre l'accent de plus en plus sur les jambes, évidemment, parce que bah, moi, j'ai que les quadris, donc si j'ai des quadris qui sont au top, ce sera mieux. Donc voilà, après, je fais beaucoup de kiné aussi pour préserver mes articulations, mes chevilles, etc. Donc,
Quadri, tu travailles comment toi, les quadris? C'est avec
j'ai du vélo.
le vélo, ouais.
Ouais.
Et le complexe et tout ça, tu fais aussi au
Non.
kiné? Non, tu fais
Non,
pas du
parce que
tout.
j'ai des douleurs neurologiques et en fait, les douleurs neurologiques font que quand tu mets l'électricité, ça fait quand même mal. Ça amplifie les douleurs neurologiques.
D'accord. Ok,
On a
donc.
un commentaire de Tallboy sur YouTube qui nous dit il faut aller voir les vidéos du Dakar 2023 de Benjamin Melo pour se rendre compte de la difficulté du Dakar. Pour ceux qui connaissent pas, Benjamin Melo, c'est un gars qui fait le Dakar en mal moto, donc il se fait tout,
Ouais.
mécanique et tout. Il a fait des vlogs l'année dernière qui étaient super bien faits, où on a appris plein de choses. Moi, je me suis même réintéressé au Dakar en regardant ça, donc c'est vrai que c'est des vidéos plutôt cool. Et pourquoi j'affiche ce commentaire, c'est pour voir avec toi comment on peut te suivre. Est-ce que déjà actuellement, tu postes des vidéos sur une chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, comment on peut suivre ça déjà dès maintenant?
Ben là, ça y est, on a commencé on va commencer les vidéos inside. En fait, je voulais pas lancer la totale. Enfin, sur les réseaux, tant que j'avais pas eu la validation de la licence, parce que voilà, tout pouvait vraiment hein, hier, justement, quand on est sur la route pour aller au terrain, je disais au caméraman, je lui dis là, il est 13h03, on avait rendez-vous à 13h30. Je dis au gars, peut-être que là, dans 30 minutes, le projet tout tombe à l'eau, quoi, c'est terminé. Et donc, avant de lancer tout le process, je voulais valider cette étape de la licence qui était importante. Donc là, oui, ça y est, je vais faire un behind the scene où on va me suivre au quotidien, où je vais poster des reels sur Instagram, sur Facebook, sur
la journée d'hier, on pourra la voir ou pas?
Comment?
La journée d'hier, on aura des images ou pas?
Ouais, tu auras. Il y a sous la pluie, mais tu l'auras. Il y a beaucoup de choses.
Mais tu vois, bonne matière.
La journée d'hier, elle est sympa parce que tu vois, c'est la première fois que je vais à la moto, que je rencontre mon mécano avec qui j'ai travaillé chez YAM. On est chez Dragon à Calais. Donc, tu vois, c'est des moments sympas que je vais poster et que les gens pourront voir. Donc, le Canal Plus est vraiment un film documentaire sur tout le suivi. Mais là, on aura un behind the scene qui va être sympa. Donc, voilà. N'hésitez pas à cliquer, liker pour voir tout le projet.
Alors, c'est où, du coup ?
Axel AXEL à l'Étru sur Instagram, Facebook. Et LinkedIn, c'est plus pro, mais ouais, moi, comme je fais pas mal de conférences, je suis aussi très actif sur LinkedIn.
LinkedIn, c'est la partie conférencier internationale, comme tu l'aimes, comme tu aimes le dire, Nico. En anglais, moi, je parle pas anglais. Donc je peux...
International keynote speaker.
Et YouTube, tu l'as pas mentionné, tu as une chaîne YouTube aussi, non ?
J'ai une chaîne YouTube, ouais. Je suis pas trop actif, mais là, elle va être réactivée. Ouais. Au Dakar, j'avais fait beaucoup de vidéos, justement, inside, où on voit pas que le roulage, mais vraiment... et là, ça va être un peu la même chose. Ouais. Donc, maintenant, j'ai hâte de partager tout ça. Et franchement, tu vois, comme je dis souvent, quand les Jeux paralympiques, le Dakar, c'est toujours à des milliers de kilomètres de chez moi. Et donc, les partenaires, tu peux pas forcément les ramener. Les gens, tu peux pas les voir sur place. Alors que là, c'est un événement local dans le Nord. Donc, je suis content de pouvoir avoir mes proches, mes partenaires, les gens que je connaisse sur place. Donc ça, c'est super aussi. C'est quelque chose qui est cool, qui est différent d'habitude.
Trop bien. Ben, nous,
on va suivre ça dans tous les cas.
Et vous venez ou vous allez venir au Touquet ou pas cette année ?
Ben, écoute, on va voir. On va faire un effort peut-être.
Un effort.
Si, ça dépend. Ça dépend. Si tu commences à nous dire, ah, je sais pas si j'y vais pour faire le château, là, peut-être pas. Tu vois. Là, on se déplacera peut-être pas. Si c'est juste pour faire le convoi, c'est bon. Nous, on se déplace
juste
pas.
Juste pour faire le convoi, c'est bon.
Si on m'en demande toujours plus. On t'attend au bout de la plage, hein, si tu nous fais le
mais non, mais en plus, attendez-moi. Parce que du coup, l'idée, c'est de faire un exit, tu sais, juste après le premier virage.
Ouais.
Où je vais m'arrêter. Et mais du coup, évidemment, ouais, ce serait bien d'avoir les médias là-bas.
Ouais, du coup, on fera des grillades à Stella, du coup, c'est ça, ça arrive jusqu'à Stella.
J'attendrai avec la plancha.
Une fricadelle, c'est ça. Finalement.
Une fricadelle, pardon. Ouais, oui, j'ai bien compris qu'on n'allait pas manger un cassoulet, quoi.
Nico.
Bon, merci beaucoup, en tout cas, Axel, c'était vraiment cool. Nouveau projet, ça fait plaisir. C'est encore plus dingue que ceux d'avant, j'ai l'impression, mais bon, tu nous étonneras toujours, et a priori, tu as prévu de nous étonner encore en 2025 et 2026. Ah. Donc on n'est pas prêt de faire, on n'est pas prêt d'arrêter nos lives annuels, si j'ai bien compris.
Ouais, ça sera moins en rapport avec la moto, par contre. Donc,
C'est pas grave.
C'est pas grave, c'est un défi.
En tant que conférencier professionnel, tu sauras nous raconter ça demain de maître. J'en suis
sûr. International keynote speaker, s'il te plaît.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
On me reprend, sinon ils me reprennent à chaque fois, ils me disent Axel, on dit pas ça. C'est des métiers bon. Cadrés.
je me doute. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à tous. Petite pause au niveau des lives parce que c'est les vacances de Noël. Du coup, on va se reposer avec Blaise. On se prend deux petites semaines un peu plus tranquilles que d'habitude, on va dire. Et on se retrouvera à la rentrée avec un nouvel invité, pas mal d'actualités avec le Supercross US qui va reprendre, le Championnat de France des Sables qui continue et l'approche du Touquet avec notre invité du jour. Donc ouais, on aura plein de sujets à balayer. Bonne soirée à tous en tout cas. Merci Axel.
Merci Axel.
Salut les gars.
Merci à tous. Allez, bonne soirée.
Ciao. Allez, salut.
Allez.